Les années-lumière, édition du 30 mai 2010. Il y a 100 ans commençait une grande aventure humaine et scientifique, la conquête du pôle Sud. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Une édition qui a 100% de chance de commencer aujourd'hui avec un reportage de Sophie André Blondin.
Votre calcul est exact, Yannick. Mon reportage propose une visite dans l'univers étonnamment varié de la statistique et des statisticiens qui font parler les chiffres.
Je vous parlerai ensuite, moi aussi, de chiffres, de pourcentages, de notes. En fait, je vous parlais du système d'évaluation des chercheurs par leurs pairs, par leurs collègues. Après quoi, collègue Hugues de Roussan, vous répondrez au courrier des auditeurs.
Oui, le courrier des auditeurs cette semaine, eh bien, c'est une question qui porte sur la langue seconde. Peut-on, à l'âge adulte, l'apprendre et bien la maîtriser? La réponse, c'est oui. Mais pour ce qui est de la parler sans accent, c'est autre chose.
Et oui, et oui. Et nous terminerons la première heure avec la chronique, cette semaine La Nature, avec Rachel Légère, qui va nous expliquer le système de certification écologique des bâtiments, le système LEED. Deuxième heure, Chantal de Srivastava, les boursiers Fernand Seguin, QV 2010, ont été choisis.
Deux jeunes qui aspirent à faire de la vulgarisation scientifique et qui auront la chance de le faire grâce à cette bourse, je vous les présente en deuxième heure, pas tout de suite.
Après le petit journal de la science avec mon invité, l'océanographe Paul Tréguer, je vous raconterai donc cette fabuleuse aventure de la conquête du pôle Sud. La phase finale de cette aventure a commencé il y a précisément 100 ans. Et nous allons terminer l'émission avec l'auteur, en fait avec les auteurs de la semaine. Et c'est vous qui les recevrez, Chantal.
Le psychologue Georges-Henri Arenstein et l'éducateur canin Jean Lessard qui ont co-dirigé la publication de la zoothérapie Nouvelles avancées chez Options Santé Éditions.
Mais pour commencer, des stats, encore des stats. Et oui, des stats, des statistiques, on va parler statistiques et on ne sera pas les seuls parce qu'il y avait plus de 500 statisticiens qui s'étaient réunis cette semaine à l'Université Laval à Québec. Et pour plonger dans leur univers, commençons là où les chiffres sont omniprésents, le monde de l'argent. Alors souvenez-vous, le 6 mai dernier, les marchés financiers ont vécu ce qu'on a qualifié de crash éclair. Le Dow Jones a perdu 1000 points en 20 minutes. Il les a regagnés tout aussi vite. Il suffisait de savoir où on achetait, on vendait, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le mystère, en fait, plane toujours, c'est curieux. Mais l'enquête se poursuit, Sophie André.
Oui, et parmi les fins limiers qui sont sur la piste d'une explication, il y a le récipiendaire du prix Nobel d'économie 2003, ouais. Robert Engel. Mmh. Monsieur Engel participait au congrès de la Société statistique du Canada à Québec comme conférencier. Il est spécialiste de la volatilité des marchés et il a mis la science de la statistique à contribution pour développer des outils pour mieux prédire la volatilité. C'est une volatilité qui s'est d'ailleurs inexplicablement emballée le 6 mai dernier, une volatilité aussi qui a joué au début de la dernière crise financière. À ce sujet, le prix Nobel d'économie Robert Engel.
When people find out that I forecast volatility and that I measure risk, they always ask me, did you see this crisis coming?
Quand les gens apprennent que je prévois la volatilité et que je mesure le risque, ils me demandent toujours « Avez-vous vu cette crise venir ?» Et oui, nous l'avons vu. Nos prédictions étaient aussi justes pendant la crise financière qu'à tout autre moment, mais il s'agissait de prédictions sur une journée. On était arrivé à prévoir la crise financière une journée à l'avance. Évidemment, on aimerait prévoir plus longtemps à l'avance. Alors, en ce moment, je travaille à trouver comment obtenir des prédictions à plus long terme. Et je crois que la statistique a beaucoup à contribuer.
That's what I'm working on right now. And I think actually when we start looking at these events like the May 6th event,
pour des événements comme ceux du 6 mai avec le crash éclair, on parle d'ordinateur, on parle de millisecondes. On ne parle pas vraiment de comportement humain. Et pourtant, on trouve qu'il y a eu de l'instabilité. Alors, c'est notre façon de programmer les ordinateurs qui est en jeu, l'interaction entre les ordinateurs aussi. Et ça, c'est une nouvelle frontière. Cet événement nous fournit une fenêtre sur le fonctionnement des marchés financiers dans le futur. Il ne sera plus possible pour des individus de prendre leur temps pour décider avec des échelles de temps si courtes. Il faudra qu'ils décident à l'avance et c'est l'ordinateur qui appliquera leur décision.
Le prix Nobel d'économie Robert Engel, donc, qui est professeur à la New York University. Alors, on va continuer, Sophie André, d'explorer l'univers des statistiques et des statisticiens. Il y a un autre champ d'application de cette science-là qui est la recherche médicale. On comprend qu'avec de vastes études, par exemple, sur de très grands échantillons de population, la statistique devient indispensable pour faire parler les données.
Des données très nombreuses, mais parfois, vous savez, en recherche médicale, c'est exactement le contraire, Yannick. Parfois, c'est pas le grand nombre de données qu'il faut gérer avec la statistique, c'est leur petit nombre. Et faire parler des petits échantillons, c'est le travail du statisticien Patrick Brown d'Action Cancer Ontario.
Il y a parfois des taux de cancer élevés près des sites industriels et il y a aussi beaucoup plus de fumeurs vers ces sites. Alors, une question que j'étudie, c'est est-ce qu'il y a plus de cancer qui est causé par le fumée? Est-ce qu'il y a un excès de cancer vers les sites industriels ou non? Aussi, quand on n'a pas beaucoup de données, dans une ville, on n'a pas beaucoup de cancers chaque année, ou si on divise la ville en petites parties, on a peut-être un ou deux cas de cancer dans chaque petite région. Alors, il faut vraiment des bonnes méthodes statistiques et des bons modèles pour tirer l'information et résoudre les problèmes. Pour moi, ce qui est intéressant est qu'on n'a pas assez de données pour faire cela. Et on a besoin des modèles spatiaux où on utilise l'information des régions autour de notre région. C'est-à-dire que le risque de cancer varie d'une façon très régulière. Et on peut faire un modèle statistique de comment la variation du cancer va aller. Et on peut utiliser les données de régions autour de notre région pour faire des inférences. Pour nous, les statistiques, on pense souvent peut-être les statisticiens sont des personnes qui ont des tables et des tables de numéros. Mais pour nous, sinon, c'est des mathématiques et des ordinateurs. Alors, on a besoin qu'il y ait des jeunes qui étudient des mathématiques, des ordinateurs.
Et c'est aussi parler des humains et de la santé des humains. Oui. C'est pas désincarner tout ça, la statistique.
C'est à cause de ça que j'ai étudié la statistique. Je trouvais que j'étais bon en mathématiques. Je savais quoi faire avec les numéros, mais je voulais faire quelque chose qui soit plutôt appliqué ou avec des vrais êtres humains et résoudre des vrais problèmes. Et j'aime bien la statistique pour faire cela.
Un appel donc à la relève, hein, il faut le dire, de Patrick Brown, pour ceux en tout cas qui n'ont pas peur des maths, parce qu'il y a des maths en stats, mais qui veulent aussi améliorer comme lui le sort de l'humanité.
Absolument, oui. Ou le sort des animaux aussi, oui. Parce que la statistique s'amène aussi dans la forêt ou dans la mer. Louis-Paul Rivet en sait quelque chose parce qu'il a consacré une bonne partie de sa carrière au dénombrement des populations animales. Ses travaux lui ont d'ailleurs valu la médaille d'or de la Société statistique du Canada cette année. Alors, oubliez le papier et les crayons, il faut des modèles mathématiques complexes pour estimer les populations de caribou, de saumon, de raton laveur ou de cerf.
C'est clair que pour trouver un bon modèle, il faut vraiment être en contact étroit avec ceux qui vont sur le terrain, donc avec les biologistes qui sont en charge de cet inventaire-là. Puis, ce n'est pas seulement un exercice théorique, c'est un exercice appliqué. Moi, j'ai commencé à travailler sur le cerf sur l'île d'Anticosti, et puis l'objectif, ce n'était pas un objectif purement académique, c'était un objectif, on voulait savoir combien il y avait de cerf pour émettre des quotas de chasse.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait sur l'île d'Anticosti, par exemple?
Alors, bien, sur l'île d'Anticosti, déjà, les biologistes avec qui je travaillais, ils savaient que, en fait, la seule façon de les compter, c'était de faire un inventaire du haut des airs. Donc, on a choisi l'hélicoptère. Il y avait des biologistes qui survolaient des ondes d'Anticosti, puis qui comptaient les cerfs qu'ils voyaient.
On connaît la méthode des sondages où on va choisir des échantillons de la population. Vous avez fonctionné de la même façon avec un territoire. Vous avez choisi des petites bandes, des échantillons de territoire qui étaient représentatifs de l'ensemble.
Oui, tout à fait. En fait, c'est sur le plan conceptuel, c'est le même principe, finalement. Choisir au hasard des répondants pour un sondage standard, puis choisir au hasard des placettes sur lesquelles on va compter les serres, sur le plan mathématique, c'est pareil. Moi, ça fait quand même, disons, 25 ans que je suis à l'Université Laval. Alors là, puis c'est un domaine qui m'intéressait. Donc, j'ai travaillé avec des biologistes qui travaillaient sur le saumon. J'ai travaillé avec des gens du caribou, raton laveur. Donc, j'ai passé à peu près toutes les espèces. Chacune avait ses caractéristiques propres. Mais quand même, à chaque occasion, là, il y avait toujours une espèce de modèle mathématique qu'on pouvait dégager pour aider le biologiste à faire un bon inventaire.
Louis-Paul Rivet, qui est professeur en statistique à l'Université Laval à Québec. Alors, on l'a vu jusqu'à maintenant, hein, des stats dans les marchés financiers, dans la recherche en santé, en biologie animale, oui.
Oui, puis on en trouve aussi en génie.
Ah, mais pourquoi pas? Oui.
Comment construire des digues, des barrages qui soient adaptés à toutes les conditions auxquelles ils seront soumis, même aux épisodes extrêmes de précipitations? Eh bien, il faut colliger les données qui sont disponibles et trouver les données qui sont manquantes. Les explications d'Anne-Catherine Favre, professeure au département de mathématiques et statistiques à l'Université Laval, et de Luc Perrault, qui est chercheur en statistique à Hydro-Québec.
Ces décisions sont prises dans un contexte incertain, mais la statistique, c'est la science des incertitudes. Donc, on travaille, par exemple, sur des modèles qui permettent de prévoir soit à court terme ou à long terme les débits d'une rivière donnée ou d'un bassin versant donné pour pouvoir, donc, assurer les décisions les meilleures. Les précipitations, évidemment, sont un intrant majeur des modèles hydrologiques et des modèles probabilistes qui permettent d'anticiper le futur. Et aussi, ce qui est important, mais de bien quantifier l'incertitude de cette prévision-là, parce qu'une prévision toute seule, et pour un gestionnaire, c'est inutile. Ça prend une marge d'erreur pour pouvoir prendre une décision éclairée. On fait deux types de prévisions. On fait des prévisions de court terme pour pouvoir prendre des décisions, évidemment, de court terme, où on doit turbiner de manière optimale pour produire le maximum d'énergie, mais aussi pour s'assurer la sécurité, évidemment. Puis aussi, un aspect plus long terme, où on cherche à caractériser les événements hydrologiques extrêmes pour pouvoir mieux dimensionner, par exemple, un nouvel ouvrage, comme par exemple pour la Romaine.
Et dans ce cadre-là, quelque chose qui est très important à tenir compte maintenant, c'est les potentiels changements climatiques. Comment dimensionner un ouvrage hydraulique, par exemple dans le cas d'Hydro-Québec, dans un contexte où il y a potentiellement un changement climatique qui va apparaître dans le futur? Ce sont ce genre d'études que l'on fait de concert avec Hydro-Québec. Est-ce que les ouvrages actuellement déjà dimensionnés sont suffisants pour assurer la sécurité? Oui, ils ne le sont pas, et en tenant compte évidemment des incertitudes qu'on a, des incertitudes à la fois climatiques et des incertitudes statistiques. Et on pense que l'incertitude climatique va être plus importante que l'incertitude statistique. En fait, à mon avis, dans ce domaine-là, on en est au premier balbutiement, en fait.
Anne-Catherine Favre de l'Université Laval et Luc Perrault d'Hydro-Québec, tous deux participaient, comme d'ailleurs tous vos autres invités, Sophie André, au congrès de la Société de statistique du Canada. Ça se passait à Québec plus tôt cette semaine.
C'est le cas aussi pour Jeffrey Rosenthal. Avec lui, c'est le monde des probabilités qu'on va découvrir. Il est professeur de statistique à l'Université de Toronto. Il a écrit un livre grand public sur les probabilités qui s'intitule « Struck by Lightning, The Curious World of Probabilities ». Il explique que nous évaluons tous des probabilités statistiques constamment, mais nous commettons des erreurs.
Par exemple, on va penser que les choses qui sont très peu probables sont plus probables qu'ils sont. Si on achète un billet de loterie, on pense, oui, j'ai une bonne chance à gagner, mais vraiment, c'est peut-être une chance sur 14 millions qui est presque impossible et il ne faut pas même penser à ça. Ou bien, on va penser, oh, c'est probable que je serai tué par les voleurs cette année parce que c'est un monde dangereux. Et en réalité, c'est très peu probable que ça va se passer aussi. Ou, en fait, il y avait à Toronto, il y avait beaucoup de piétons qui étaient tués dans un mois, il y a quelques mois. Et les gens m'ont demandé, est-ce que ça veut dire que c'est maintenant plus dangereux de marcher à Toronto? Est-ce qu'il faut changer la vie? Et qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que les voitures sont maintenant plus agressives et tout ça? Et j'ai étudié et j'ai dit, non, c'est juste par hasard. Parfois, il y aura plus de morts dans un mois et moins de morts dans le prochain mois. Et c'est ce qui s'est passé.
Quels sont les enjeux d'actualité? À quoi est-ce que travaillent, par exemple, les statisticiens comme vous dans le monde des probabilités?
Il y a plusieurs connexions et plusieurs sujets modernes qui utilisent beaucoup de probabilités, comme la finance et l'assurance et plusieurs choses comme ça. Pour moi, j'étudie des algorithmes avec des ordinateurs et pour calculer des choses, on peut penser que les ordinateurs sont très scientifiques et logiques et il n'y a pas de choses aléatoires, il n'y a pas de probabilités. Mais en effet, nous avons appris que nous pouvons utiliser les probabilités et des choses aléatoires pour mieux calculer des choses et pour mieux utiliser des ordinateurs. Et nous les appelons les algorithmes Monte Carlo, c'est nommé pour le casino à Monaco, et c'est l'idée d'utiliser les chiffres aléatoires pour mieux calculer des choses très compliquées. Alors, ça veut dire que les probabilités peuvent nous aider à partout.
Évidemment. Jeffrey Rosenthal, donc, et les nombres aléatoires à la rescousse des ordinateurs. C'est beau, ça.
Oui. Là où nous savons tous que les statistiques abondent, c'est dans les sondages, les enquêtes auprès de la population. Ça, on connaît. Statistique Canada, par exemple, effectue environ 350 enquêtes par année. Mais pour que les données qui émanent de ces enquêtes soient valables, il faut que les sondages soient valables. Et dans un monde où la technologie change vite, la science des enquêtes, elle aussi, elle doit changer vite. Julie Trépanier, directrice adjointe à la division des enquêtes auprès des ménages à Statistique Canada.
La plupart de nos enquêtes à Statistique Canada sont faites sur une base volontaire. On a besoin de la collaboration des gens pour y répondre. Par contre, on comprend la situation actuelle. Les gens sont de plus en plus occupés. Donc, il y a d'autres problématiques aussi qui émergent. La présence des téléphones cellulaires, par exemple, fait que les gens n'ont plus nécessairement de ligne à la maison. Donc, on a plus de difficultés à rejoindre les gens. Donc, il faut être innovateur. Et c'est là que la science entre en jeu, que la méthodologie d'enquête entre en jeu pour trouver des façons de continuer à avoir des réponses de nos gens, parce que c'est comme ça qu'on va produire des statistiques aussi de qualité. Un des domaines dans lequel on veut mettre beaucoup d'efforts, c'est tout ce qu'on appelle la recherche dans les activités de collecte. Trouver des façons de voir qu'est-ce qui est déterminant au niveau de la collecte pour obtenir la collaboration des gens, pour obtenir une réponse. Donc, on analyse beaucoup. Maintenant, vous savez, avec l'informatique, on a des outils puissants. On est capable de suivre l'évolution d'un processus de collecte, de savoir si on fait un appel en soirée, qu'est-ce qui se passe, on le fait le matin. Donc, c'est d'analyser toutes ces données-là. C'est des données de processus, puis modéliser, puis essayer de voir qu'est-ce qui va prédire le plus possible une réponse en bout de ligne. L'autre chose, par exemple, évidemment, on passe à l'ère de la technologie, on passe à des modes de collecte, ce qu'on appelle multimodes, collecte électronique, collecte par téléphone, collecte en personne. Et c'est évident qu'il y a aussi un défi statistique à ce niveau-là. Comme moi, si par exemple, je veux recueillir le poids d'une personne pour faire une enquête sur la santé ou quoi que ce soit, bien, si je vous téléphone puis je vous demande votre poids, vous allez me dire quelque chose. Si je vais vous rencontrer en personne, peut-être que vous allez me dire autre chose. Puis si vous êtes tout seul devant votre ordinateur puis vous devez répondre à une question comme ça, bien peut-être que vous allez me dire légèrement quelque chose d'autre. C'est normal. L'humain est ce qu'il est. Ceci étant dit, ça veut dire que ça crée des différences dans les données, dépendamment de l'outil de collecte qu'on utilise. Donc, il faut travailler avec ça.
Julie Trépanier de Statistique Canada. Effectivement, ce serait presque trop simple, hein, Sophie André, si tous les sondages pouvaient se faire par Internet, non?
Ce serait surtout inexact, parce que les sondages Internet ne sont pas représentatifs de la population, parce que tout le monde ne peut pas y participer, tout le monde n'est pas encore branché. Alors, les sondeurs forment des panels de participants qui sont considérés comme représentatifs, mais qui n'équivalent pas à un échantillonnage statistique. C'est pour ça que vous ne devriez jamais lire ou entendre parler de la fameuse marge d'erreur lorsqu'on vous livre des résultats d'un sondage qui a été effectué sur Internet. Vous ne devriez pas, par exemple, entendre parler de marge d'erreur à l'émission Le Verdict à la télévision de Radio-Canada, une émission qui confronte des vedettes à des résultats de sondages qui ont été menés à leur sujet. C'est d'ailleurs une erreur qui a été commise en ondes et que l'association Recherche Intelligente Marketing a fait corriger tout de suite après la première émission du Verdict. Michel Saunier préside le chapitre du Québec de cette association de sondeurs professionnels.
On ne doit pas mettre de marge d'erreur pour un sondage par Internet. La majorité des sondages par Internet, comme ils ne sont pas représentatifs de la population, la marge d'erreur vient des techniques statistiques pour avoir une marge d'erreur. Donc, il faut avoir échantillonné nos gens. La majorité des sondages par Internet, on n'échantillonne pas des gens. Donc, on ne devrait jamais voir une marge d'erreur associée à un sondage par Internet. À moins que ça soit spécifié que le sondage par Internet soit un sondage probabiliste où les gens ont été choisis au hasard, dans la population, etc. À ce moment-là, on peut mettre une marge d'erreur. Mais actuellement, la grande majorité, très, très, très grande majorité des sondages par Internet, on ne doit pas avoir de marge d'erreur.
Parlez-nous un peu de ces panels qu'on trouve. On essaie de trouver des gens qui sont représentatifs de la population, mais il y a des gens qui ont étudié les panels et on a peut-être des surprises de ce côté-là aussi.
Oui, il y a beaucoup de surprises dans les panels parce que les panels, les entreprises mettent des annonces un petit peu partout, des bandeaux sur Internet, on les recrute, on leur offre de l'argent, on leur offre des points, etc. Et on est venu à se poser des questions sur les professionnels de panels. On a remarqué qu'un très gros pourcentage d'individus appartenaient à plusieurs panels. Pourquoi? Pour gagner des points, pour gagner des prix, pour recevoir des cadeaux, recevoir de l'argent. Et là, on se retrouve avec des professionnels de panels. Donc, il faut faire attention, il faut être critique.
Si on regarde vers l'avenir, quand le téléphone est arrivé, les sondeurs professionnels devaient se méfier aussi du téléphone en disant qu'il y avait là un biais parce que tout le monde n'était pas branché au départ. Internet, c'est la même chose maintenant. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal comme méthode de sondage?
Cette affirmation-là est parfaitement exacte. Hein? Quand on a passé du papier au téléphone, ça a été un bouleversement. Quand on a passé du téléphone à le téléphone informatisé, ça a été un autre bouleversement parce qu'avant, c'était au téléphone, mais on complétait les sondages sur papier. Maintenant, tout est informatisé. Maintenant, on passe à Internet. Et pendant un certain moment, il y a eu une euphorie. On a dit, voilà, c'est la méthodologie ultime. On s'en va vers Internet. Il n'y aura plus d'autre chose. Et là, on s'est réalisé que finalement, ce n'était pas le nirvana. Ce n'était pas une panacée, les sondages par Internet. Donc, ce qu'on peut voir dans le futur, c'est qu'on converge vers des sondages qui vont être multicanaux. Via le téléphone cellulaire, avec les téléphones intelligents, les iPhones, les BlackBerry, via le téléphone conventionnel, via la poste. On commence à revoir des sondages par la poste et on voit que la technologie s'en va vers les sondages multicanaux.
Donc, Michel Saunier de l'Association Recherche Intelligente Marketing, qui fait des prévisions dans sa boule de cristal, il a combien de chances de succès, de réussir?
Oh, je lui en donnerais pas mal. On n'échappera pas aux sondages, parce que vous savez, c'est comme la statistique, les sondages, ils sont partout.
Oui.
Et comme me le disait le directeur scientifique de ce congrès, les statisticiens sont en fait des traducteurs qui sont indispensables à la science. Ce sont eux et elles qui maîtrisent la boîte noire qu'il y a entre les données et les résultats des recherches. Ils font parler les chiffres, quoi.
Merci beaucoup, Sophie André.
Merci.
Ici Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Alors, ce n'est peut-être pas le sport préféré des chercheurs, mais c'est un sport obligatoire, comme le sont les figures imposées dans les championnats de patinage artistique. Ce sport incontournable, c'est l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire par de chers collègues et néanmoins, mais pas toujours amis, qui jugent notamment des demandes de subventions de recherche et qui décident qui recevra des fonds et bien sûr, qui n'en recevra pas. Alors que vaut ce système? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Permet-il des choix éclairés et objectifs ou au contraire favorise-t-il le favoritisme? C'est ce qu'a étudié la sociologue Michelle Lamont de l'Université Harvard aux États-Unis. Madame Lamont est également attachée à l'ICRA, l'Institut canadien de recherches avancées. Elle a publié le fruit de son évaluation de l'évaluation par les pairs dans un livre intitulé « How Professors Think » aux presses de l'Université Harvard. Elle était récemment de passage à l'Université du Québec à Montréal, au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, pour parler de ce qui se passe, comme elle dit, derrière les portes closes des comités de pairs. Michel Lamont.
Dans une société comme la nôtre qui dépend de plus en plus de la connaissance, le contrôle de la qualité est crucial. La différence entre ce qui se fait dans les universités et Wikipédia, c'est justement le contrôle de la qualité par des experts. Alors, l'évaluation par les pairs, c'est le mécanisme par lequel on détermine qu'est-ce qui doit être publié, qu'est-ce qui mérite d'être subventionné, qu'est-ce qui compte comme vraie connaissance. Et ceux qui le font, c'est les pairs, c'est-à-dire c'est les experts. C'est les gens qui ont eux-mêmes déjà démontré leur maîtrise d'un domaine de recherche. Oui, alors c'est très important.
Alors, qu'est-ce qui marche le mieux et qu'est-ce qui marche le moins bien dans le système?
Ce qui marche le mieux, je pense, c'est le pluralisme de ces compétitions, c'est-à-dire que les panels incluent des gens de différentes disciplines et ils s'écoutent les uns les autres. Alors, ils essayent ils dépendent les uns des autres pour déterminer ce qui est vraiment bon. Alors, ça, c'est ce qui marche le mieux. Ce qui marche le moins bien, c'est le fait que souvent, ce qui est excellent, c'est ce qui nous ressemble. Alors, les gens ont tendance à être très enthousiastes quand les projets des autres amènent de l'eau à leur moulin. Et il faudrait vraiment séparer de façon très claire les jugements qui sont des jugements d'excellence ou de qualité de la recherche et des jugements qui sont des jugements qui ont à voir avec les goûts ou ce qui m'excite m'excite, moi, personnellement.
Le reproche qu'on murmure ou qu'on dit tout haut, c'est que c'est un système qui permet beaucoup le copinage. Je te donne une subvention parce que tu m'en donneras une la prochaine fois, etc. Est-ce qu'effectivement, quand on regarde ce système à la loupe, comme vous l'avez fait pour écrire votre livre, est-ce qu'effectivement, il y a le copinage à une place importante?
Le problème, c'est que c'est des réseaux qui sont hyper spécialisés. Alors, il y a combien de gens qui ont des doctorats, disons, en neurobiologie au Québec? Ils se connaissent tous. C'est pas nécessairement des copains, mais les réseaux sont petits et étroits parce que le degré de spécialisation est énorme. Alors, c'est pas nécessairement du copinage dans le sens où il y a aussi beaucoup de compétition. C'est un univers de compétition et d'entraide. Et puis, en plus, en tant qu'expert, on est censé être capable de s'abstraire dans un certain degré des relations qu'on, de mettre sur sa tête son chapeau de professionnel et d'évaluer. Mais c'est toujours une tension, évidemment.
Est-ce que globalement, parce que c'est la grande question, est-ce qu'on finance les projets de recherche uniquement sur la base de l'excellence ou sur d'autres bases avec d'autres considérations?
Ça dépend lesquels. Il y a souvent des demandes de subvention qui posent problème et où on se sert d'un autre critère, que ce soit l'interdisciplinarité ou l'université où la personne enseigne. Si la personne vient d'une région éloignée, par exemple, il peut bénéficier d'un avantage parce qu'on veut pas que les chercheurs de Toronto ou de Montréal reçoivent toutes les subventions. Alors, il y a d'autres critères qui sont des critères qui ont à voir avec la diversité qui sont aussi pris en considération.
Donc, c'est pas un système qui ne regarde qu'un critère, le fameux critère de l'excellence universitaire.
Non, c'est vrai. C'est aussi... C'est un système qui fonctionne dans un univers plus grand où la méritocratie et la démocratie sont importantes. C'est un système ouvert. Alors, c'est pas qu'un système où les riches deviennent toujours plus riches. C'est aussi, on croit que le talent est dispersé sur le territoire et à travers les types d'universités. Alors, c'est pas toujours les universités les plus élites qui vont recevoir de l'argent.
Pourtant, vous venez d'une des universités les plus prestigieuses au monde, Harvard, la Ivy League, comme on dit aux États-Unis. Au Canada aussi, on a ça, quelques grandes universités qu'on appelait le G5, qui voulaient avoir plus d'argent, plus de subventions. Vous dites que non, c'est pas ça qui compte?
Non, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs de très grandes universités qui produisent des demandes de subventions qui sont mal cousues. Les gens reçoivent pas nécessairement de l'argent à cause de l'endroit où ils sont. Il faut aussi, c'est ce que l'évaluation par les faire fait. Ça permet un débat autour de chaque demande de subvention. Alors, c'est sûr qu'il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages du fait d'être associé avec un endroit comme Harvard, le fait qu'on a des collègues qui sont des experts dans tous les domaines, qui sont world class, on peut aller les consulter au besoin, mais il y a aussi des désavantages. Par exemple, il y a beaucoup de très bons étudiants qui ne sont pas subventionnés parce qu'il y en a d'autres qui sont à Harvard qui sont encore meilleurs qu'eux. Alors, c'est le cas où des gens que j'ai interviewés disent « on ne va pas subventionner toutes les bonnes demandes de subvention qui viennent du département d'anthropologie à Chicago. On va prendre la meilleure ou les deux meilleures et puis on va mettre de l'argent de gens qui viennent d'Oregon ou du Kansas. On va distribuer l'argent pour que ce soit un peu plus démocratique, disons. »
Bon, c'est un système qui est important. Je pense qu'on ne pourrait pas s'en passer, le système de l'évaluation par les pairs. Mais est-ce que c'est un système qui est améliorable, transformable qu'on pourrait effectivement rendre encore plus efficace et plus juste?
Ah oui, il y a beaucoup de fine-tuning qui est possible. Et quand j'ai évalué le système du Conseil des sciences sociales du Canada, on avait 42 suggestions. Mais c'est vraiment, il faut vraiment comprendre la mécanique d'évaluation, les détails, la technique d'évaluation qui est mise en place pour voir quel degré de fine-tuning qui est nécessaire. Je veux dire, ce n'est pas des grandes propositions. Je pense qu'en général, le système marche assez bien.
Et on ne remet pas en cause donc le système de l'évaluation par les pairs.
Les alternatives, ça serait quoi? D'avoir des non-experts évalués?
Des ordinateurs.
La majorité des gens pensent que c'est vraiment... Les ordinateurs n'ont pas la finesse de jugement que les êtres humains ont. Ils n'ont pas le degré de connaissance qu'on a. Quand ça en vient vraiment comprendre la dynamique interne de demande de domaine de spécialisation. Alors, je dirais qu'en Amérique du Nord, en tout cas dans les sciences sociales et humaines, la réponse est non. Dans les sciences, c'est différent. Dans les sciences, je pense, en psychologie, dans les sciences dures, on est plus investi dans la notion de H-index, citation index, comme vraie mesure d'excellence. Dans les domaines où les gens écrivent des livres aussi, les H-index, ça ne veut absolument rien dire.
H-index, c'est quoi?
C'est l'index de citation, combien de citations que tu reçois, compte tenu du poids relatif des revues dans lesquelles on publie.
Ce qui veut dire que dans les sciences dites exactes, en tout cas, on a une évaluation beaucoup plus quantitative et dans les sciences humaines, une évaluation plus qualitative?
Oui, exactement, parce qu'aussi dans les sciences humaines, on peut avoir un seul livre de 300 pages qui est vu comme extrêmement innovateur, qui fait ta réputation. Alors que dans des domaines comme la psychologie, on peut écrire, disons, 15 articles en une année où on est la cinquième personne, je veux dire, sur l'article. Comment est-ce qu'on détermine si quelqu'un a un agenda intellectuel, un programme intellectuel unique et original? C'est pas les mêmes dynamiques qui sont en place pour permettre aux collègues de déterminer la valeur de ce qu'on fait.
Michel Lamont, je vous remercie beaucoup.
Michel Lamont est professeur au département de sociologie de l'Université Harvard.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir, en deuxième heure, la conquête du pôle sud. Celui qui gagnera la course sera le Norvégien Roald Amundsen.
On le sait maintenant qu'il y est arrivé parce qu'il a laissé une tente avec ses instruments et un message pour le suivant, adressé au capitaine Scott en lui disant « Capitaine Scott, en cas de malheur pour moi, veuillez transmettre s'il vous plaît au roi de Norvège le message suivant. » Scott le prendra très mal.
Et c'est le moment du courrier des auditeurs et des auditrices. La question cette semaine porte sur les difficultés d'apprentissage d'une langue seconde.
La question est la suivante. Une fois à l'âge adulte, a-t-on tous et toutes la même aptitude pour l'apprentissage d'une seconde langue vivante?
Alors pour répondre à la question de notre auditeur, Georges Paget, Hugues de Roussan a joint Coralie Huckel, qui est maître de langue à l'École des langues de l'Université du Québec à Montréal, qui nous dit que oui, un adulte peut apprendre une langue seconde, mais pas du tout de la même manière que sa langue maternelle.
L'apprentissage d'une langue maternelle se fait naturellement. C'est pour ça que ça s'appelle une langue maternelle. Donc la personne n'apprend pas sa langue maternelle. Elle va l'intégrer, elle va imiter, l'enfant va imiter les parents. Donc c'est par imitation, par répétition que l'apprentissage se fait. C'est un processus différent. C'est l'acquisition du langage, hein, la langue maternelle ou les langues maternelles, l'acquisition de la langue seconde est quelque chose de différent.
Est-ce que ce sont les mêmes difficultés quand on veut apprendre une langue seconde si on est jeune et si on est un adulte de 30 ou 35 ans?
C'est assez différent. Alors jeune, si on prend un enfant qui apprend une langue seconde ou plusieurs langues secondes, parce qu'on en apprend parfois quelques-unes en même temps, un enfant, justement, quand il apprend une langue seconde, va utiliser, je veux dire, les mêmes stratégies que lorsqu'il acquiert sa langue maternelle. Ça sera plus une acquisition qu'un apprentissage. Si c'est un enfant qui n'est pas encore scolarisé, il va écouter. Donc la perception est très importante, la perception auditive. Et il va répéter par imitation, par erreur et correction. Alors qu'un enfant qui écrit déjà ou un enfant plus âgé va déjà savoir écrire et va donc aussi passer par l'écrit. Mon expérience d'enseignement, donc ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne le français langue seconde à des adultes au niveau universitaire. Les adultes ont des stratégies assez différentes dans l'apprentissage de la langue seconde.
Et quelles sont ces stratégies?
Beaucoup d'adultes, lorsqu'ils vont apprendre une langue seconde, vont passer par l'écrit. Ils vont se dire, bon, j'apprends une langue seconde comme j'apprendrais une autre matière. Et donc, souvent, ils vont vouloir passer par l'écrit. Ils ont besoin du repère écrit afin de pouvoir parler, par exemple, et structurer la langue, alors que d'autres personnes vont le faire plus par la perception, donc le facteur auditif. Ils vont d'abord percevoir, écouter, essayer de reproduire. Donc là, je parle de l'oral. Et puis ensuite, l'écrit, parfois les deux choses se font en même temps, même souvent. Mais certaines personnes vont favoriser l'oral par rapport à l'écrit dans leur apprentissage. C'est peut-être inconscient. Ces personnes-là vont avoir moins de difficultés souvent à l'oral qu'à l'écrit.
Beaucoup de gens disent que quelqu'un jeune qui apprend une deuxième langue ou qui a deux langues maternelles peut devenir à la limite ce qu'on pourrait appeler parfait bilingue. Est-ce que c'est possible d'apprendre une langue seconde à l'âge adulte et de la maîtriser au point d'obtenir ce niveau-là de parfait bilinguisme?
Moi, je pense que oui. plus on parle de langue, plus on apprend de langue, plus ça devient facile et plus on fait de connexions au niveau cérébral et plus on fait de connexions, on comprend mieux les systèmes grammaticaux. Oui, je pense qu'on peut parfaitement parler, apprendre une seconde langue à l'âge adulte et la dominer parfaitement. L'oral est encore une fois différent de l'écrit. Ce ne sont pas les mêmes habiletés. La mémoire est importante et aussi l'oreille. Donc là, on va parler de est-ce que la personne va parler avec un accent, avec l'accent de sa langue maternelle ou l'accent d'une autre langue qu'il a acquise entre-temps, ou est-ce qu'il va réussir à parler sans accent. Le problème est assez complexe.
Vous avez amené la question de l'accent. Justement, les jeunes qui apprennent une deuxième langue ou une troisième langue parlent sans accent ou presque sans accent ou arrivent finalement à parler sans accent, ce qui semble être beaucoup plus difficile quand on apprend une langue à l'âge adulte ou plus âgé.
Voyez-vous, là, c'est le crible. Moi, je parle de crible phonologique. En fait, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. Le crible phonologique, il y a une théorie donc qui dit qu'au niveau cérébral, avec sa langue maternelle, on va acquérir un certain crible phonologique. Ça veut dire qu'on va entendre certains sons. Ce sont les sons de notre langue auxquels on est sensible et on sera sourd aux autres ou pas plus ou moins sourd aux autres. Un enfant est beaucoup plus flexible, son oreille est encore beaucoup plus flexible et va donc pouvoir élargir très facilement son crible phonologique, alors que nous, adultes, ça va être plus difficile, à moins que nous ayons été exposés à beaucoup de langues jeunes, ou à moins qu'on ait une oreille peut-être aussi musicale. Enfin là, je parle encore une fois d'expérience, d'observation que je peux faire auprès de mes étudiants.
Hugues de Roussan s'entretenait avec Carolie Huquel de l'École de langue de l'Université du Québec à Montréal. Alors, pour nous poser vous aussi vos questions de science, vous avez le téléphone. De la région de Montréal, vous composez le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050. Et puis aussi le courriel, bien évidemment, lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière pour terminer la première heure, comme à l'habitude, et cette semaine, c'est avec Rachel Légère, directrice du Biodôme de Montréal. Bonjour Rachel.
Bonjour Yannick.
Pour nous parler non pas de nature, c'est le titre de votre chronique, pourtant, mais de construction, c'est bien ça?
Oui, mais je vais parler de construction écologique qui aide la nature, donc c'est pas si loin.
Et d'un système de certification dont on entend souvent parler pour les bâtiments, la certification LEED. Qu'est-ce que c'est que ça?
LEED, qui veut dire Leadership in Energy and Environmental Design, qui est vraiment un système d'évaluation environnementale, mais pour les bâtiments.
D'accord.
Pour s'assurer qu'on construise plus vert et qu'on puisse gérer après ces bâtiments-là, qui soient aussi plus économiques et éco-énergétiques.
Et ça vient d'où, ce système-là?
C'est un système qui a été créé aux États-Unis en 1998 par le Green Building Council, mais qui a été adapté au marché canadien par le Conseil du bâtiment durable du Canada.
Et je dis, on en entend beaucoup parler, ça veut dire qu'il est devenu très appliqué, très utilisé?
C'est le plus utilisé présentement au monde. Il y a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs et d'entrepreneurs et d'architectes qui veulent construire des bâtiments plus verts parce qu'il y a une demande pour ces bâtiments-là. Donc, on essaie de suivre la réglementation LEED.
Donc, il y a des bâtiments qui ont déjà la certification, comme par exemple à Montréal, il y en a plusieurs.
À Montréal, il y en a plusieurs, deux qu'on connaît très bien. Il y a la TOU, entre autres, et le pavillon Lassonde de l'Université de Montréal, l'École polytechnique, qui sont tous les deux LEED or.
Puis, on voit qu'il y a des projets aussi, des gros projets.
Bien, chez nous, on a le Planétarium de Montréal
qui
s'en vient, qui, nous, on vise LEED platine, donc c'est encore plus haut. Et il y a la Maison du développement durable d'Équiterre, qui aussi vise ce lit de platine. Mais il y en a des dizaines et des dizaines.
J'espère qu'ils vont l'obtenir.
Mais il faudrait, oui, j'en suis certaine.
Alors, à quoi ça correspond ces classifications, là, Rachel?
Premièrement, il y a le type de bâtiment. On peut avoir une certification pour des nouvelles constructions. On va appeler ça LEED NC pour nouvelles constructions. Il y a les bâtiments existants qui peuvent être remodifiés pour être plus écologiques. Il y a les LEED SC, structures et coques, les habitations domiciliaires, donc les maisons résidentielles, et les intérieurs commerciaux. Donc ça, c'est les grandes catégories. Mm-hmm. Après ça, on tombe vraiment dans l'évaluation plus environnementale. Là, il y a 6 grandes catégories. On va regarder l'aménagement écologique et réduire l'impact de la construction sur le site.
Donc, dans son environnement.
Assécher des marais, ne pas couper des forêts, tout ça. Ça vaut 14 points si on arrive à avoir quelque chose de très écologique. La gestion efficace de l'eau, ça vaut 5 points. L'énergie, donc des bâtiments plus énergétiques, on utilise la géothermie pour le chauffage, 17 points. Les matériaux efficaces, 14 points. La qualité de l'environnement intérieur, on parle là de 15 points. Mm-hmm. Et l'innovation, le design pour un autre 5 points. Donc, on arrive à un total de 70 points.
Possible, oui.
Possible, ça c'est le maximum. Et selon, on peut être certifié. Seulement certifié à la base, 26 à 32 points. On peut être argent jusqu'à 38. Mm-hmm. On peut être or jusqu'à 51. Et on peut être platine de 52 à 70 points. Donc, selon ce qu'on obtient...
On a une plus belle médaille.
On a une plus belle médaille, oui.
Alors, qu'est-ce que, bien concrètement, là, ça correspond à quoi? Vous dites des points, etc. Mais bien concrètement, pour nous donner une image de ce que c'est.
Je vais donner l'exemple d'un bâtiment qui voudrait devenir LEED or, par exemple. Oui. Il faudrait qu'il y ait 75 à 95 de ces déchets de construction qui vont dans des sites de récupération et non à l'enfouissement. Donc là, déjà, on récupère. Une réduction de l'eau potable d'à peu près 30 %, donc en utilisant, récupérant l'eau de ruissellement, l'eau de pluie, des équipements sanitaires à faible débit, etc. La consommation énergétique par rapport à la géothermie doit être diminuée de 29 %. Ça, c'est juste pour or. Oui. Il faut avoir du transport en commun pas loin, des racks à vélo pas loin.
On regarde vraiment tout.
Regarde vraiment tout.
Et de façon très précise, très minutieuse.
Limiter les îlots de chaleur en ayant beaucoup de verdure à l'extérieur. Donc, on regarde
l'intérieur.
Relation
avec les transports en commun, j'imagine aussi.
Oui, oui. Donc, des abris pas trop loin pour pouvoir prendre des transports en commun.
Donc, un système assez méticuleux de pointage. Mais qui est-ce qui donne les points? Qui est-ce qui juge?
Donc, il y a des professionnels qui ont été formés pour faire ces évaluations-là. C'est sûr que le Conseil du bâtiment durable du Canada, c'est là qu'on fait application pour pouvoir avoir nos documents.
D'accord, ouais.
C'est un processus qui est assez simple, mais qui est lourd et long quand même, parce qu'il faut remplir plein de documentation qui va être évaluée, et aussi les visites de chantier qui sont... il y en a quelques-unes quand même. Mm-hmm. Donc, un client qui veut bâtir va commencer par avoir son propre professionnel pour être sûr de bien suivre les étapes. De même que l'entrepreneur qui reçoit le contrat, lui, si on lui dit on veut atteindre telle certification, il doit s'assurer d'atteindre. Donc, lui aussi, il va avoir ses professionnels qui sont qualifiés pour pouvoir, pour connaître le système et pouvoir...
Donc, un processus assez compliqué et très, très, très rigoureusement suivi, vous diriez.
Oh oui. Mm-hmm. Pour le projet du planétarium, il y a déjà quelqu'un qui suit le projet à toutes ses étapes. Le programme fonctionnel et technique et ensuite, quel système de géothermie on utilise, qu'est-ce qu'on utilise comme énergie, comme eau et tout ça. Tout est évalué parce qu'on ne peut pas attendre à la fin que tout soit construit. Il faut que ça se fasse lors de la construction.
Au fur et à mesure. Vous dites, on vise telle certification, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de l'avoir.
On n'est pas sûr de l'avoir parce que pour atteindre ce pointage-là, souvent, ça va coûter plus cher. Et si on n'a pas les moyens, mais on vise platine pour être sûr d'avoir or, ou on vise or pour être sûr d'avoir argent. C'est sûr qu'on va tout faire pour essayer d'atteindre le niveau le plus haut. Mais il peut arriver en cours de construction des pépins quelconques qui font en sorte que...
Donc, en conclusion, Rachel Légère, un système de classification intéressant, important, qui donne quelque chose, qui apporte quelque chose.
Oui, parce que pour ceux qui sont propriétaires du bâtiment, la facture énergétique devrait être pas mal moins importante.
Oui.
Et ils vont avoir une fierté aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent habiter ou qui veulent louer des emplacements dans des résidences plus écologiques ou des bâtiments en bureaux qui sont plus écologiques. Donc, il y a une demande pour ça.
Rachel Légère, je vous remercie beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Années-Lumière. Vous nous revenez après le bulletin de nouvelles pour notre deuxième heure, notamment pour notre histoire de la conquête du pôle sud. Les Années-Lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu toujours avec autour de moi toute l'équipe des Années-Lumière. Au menu de cette deuxième heure, d'abord les boursiers Fernand Seguin, QV 2010. Après le petit journal de la science, l'extraordinaire histoire de la conquête du pôle sud, raconté par l'océanographe Paul Tréguer. Et pour terminer l'émission, Chantal Srivastava va recevoir les auteurs de la semaine, Georges-Henri Aronstein et Jean Lessard, qui ont publié un livre intitulé « La zoothérapie, nouvelles avancées ». C'est aux éditions Options Santé. Alors, on vous en a parlé souvent au cours des derniers mois du concours de la bourse Fernand Seguin, un peu plus tôt donc, pour inviter les apprentis vulgarisateurs scientifiques à poser leur candidature, à gagner des stages dans divers médias scientifiques, dont bien sûr notre émission. Eh bien, ça y est, les gagnants de l'édition 2010 ont été choisis. L'identité des lauréats a été dévoilée lors d'une cérémonie qui avait lieu à Radio-Canada la semaine dernière. Chantal de Srivastava a assisté à l'événement, animé par Charles Tisser, l'émission Découverte, qui était en compagnie de la réalisatrice également de Découverte, Hélène Leroux, pour faire la grande annonce.
Voici maintenant le moment très attendu de la soirée. Nous allons dévoiler le lauréat de la bourse Fernand Seguin 2010. C'est un grand prix de 12 000 $ et un stage de 6 mois dans les médias participants, dont 3 mois à Découverte. J'invite également, encore une fois, Hélène à venir faire les honneurs et à vous annoncer. Et oui, le lauréat.
Alors, le lauréat de la bourse Fernand Seguin 2010 est Monsieur Marc-André Sabourin.
Marc-André Sabourin, félicitations, bravo. On va vous entendre possiblement, éventuellement, aux Années-Lumière parce que vous êtes un fan de radio, si je comprends bien.
Oui, en effet, j'ai longtemps fait de la radio à Choc FM, qui est la web radio de l'UQAM. Et en effet, j'ai aussi l'intention de venir faire un tour aux Années-Lumière, si possible.
Alors, vous êtes étudiant au baccalauréat en journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Vous allez graduer bientôt. Et le thème que vous avez retenu pour votre article, donc dans votre dossier de candidature, c'est un sujet un peu délicat que vous avez choisi de traiter. Parlez-nous-en un peu.
Oui, donc c'est ça, j'ai choisi de parler des électrochocs, qui en effet est un sujet très controversé, ne serait-ce que par son histoire. Bon, tout le monde a des images un peu du film d'Alice Robbie, les cris, les convulsions, la folie en fait. Et le traitement a beaucoup changé, mais il est encore très utilisé aujourd'hui dans les instituts psychiatriques du Québec, en fait surtout, presque uniquement pour traiter la dépression. Le traitement serait efficace jusqu'à 90% lorsqu'il est utilisé en cas de premier recours. Cependant, le traitement a également ses aspects négatifs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs effets secondaires, les premiers étant les pertes de mémoire, qui peuvent être permanentes dans certains cas. Donc, on s'imagine les conséquences que ça peut avoir sur la vie d'une personne que d'oublier certains éléments de sa vie antérieure. Et le gros problème de tout ça, en fait, c'est qu'on ignore quels sont les risques, quels sont les pourcentages d'être atteint de perte de mémoire, qu'elle soit permanente ou non.
Alors, pour la suite des choses, vous vous préparez à venir faire vos stages, vous terminez vos études en journalisme. Une carrière en vulgarisation scientifique, c'est ce qui vous tient à cœur?
C'est l'objectif. Je suis passionné de science, je suis passionné de journalisme. Alors, la meilleure chose à faire à mes yeux, c'est de combiner les deux ensemble.
Bien, bravo encore. On vous souhaite la meilleure des chances et au plaisir de vous entendre dans le cadre d'un reportage et non pas comme interviewé aux Années-Lumière.
Merci beaucoup.
Montrez-moi votre prix. Vous êtes content?
Oui, c'est bien. Donc, première photo. Super, j'en fais un autre. Beau sourire.
Merci.
Bouchra Wattik, bravo. Félicitations. Vous avez gagné le prix de la relève de la Bourse Fernand Séguin. Vos premières réactions, quelles sont-elles?
Je me sens vraiment très reconnaissante, en fait, d'avoir cette bourse-là parce que je me rends compte que je vais pouvoir côtoyer des gens, des journalistes très expérimentés, des journalistes que je suis habituée à voir à la télévision, à la radio. Donc, pour moi, c'est une occasion d'apprentissage inouïe.
Et votre profil, il est assez particulier parce que vous avez fait du travail de vulgarisation, vous avez été même remporté des prix dans ce domaine-là, mais à l'origine, maintenant, vous êtes en train de finir votre baccalauréat en génie physique. Pourquoi la vulgarisation scientifique, c'est important pour vous?
Pour moi, en fait, j'aime beaucoup la vulgarisation scientifique, d'un côté parce que ça me permet d'en apprendre moi-même sur ce qui se fait en science, puis j'ai toujours naturellement aimé en parler, puis en parler aux gens qui ne font pas de science. Donc, j'aime beaucoup, je dirais, transmettre mon enthousiasme. Puis aussi, donc le génie physique, ben, j'aime beaucoup la physique parce que je trouve que c'est une science très vaste. Mais j'ai aussi l'intérêt envers d'autres domaines scientifiques. Donc, la vulgarisation scientifique et le journalisme en particulier, ça permet de toucher à tout puis de faire des liens entre les domaines scientifiques, entre la société, la politique. Donc, tout est relié avec la science, je dirais, là.
Et Bouchra, donc, dans votre dossier de candidature, vous avez soumis un article sur... Ça s'appelle, je pense, « La face cachée de la mine ».
Oui, ça, c'est le titre de l'article. Donc, ça traite du graphène. Donc, les mines de crayon sont faites graphite. Donc, c'est un matériau très courant. Mais si on prend une couche d'un atome d'épaisseur du graphite, on obtient un nouveau matériau qui est le graphène et qui se différencie énormément du graphite. Il y a toutes sortes de propriétés physiques nouvelles qui apparaissent quand on a une couche d'un atome. Donc, ça m'a fascinée parce que ça pourrait avoir des applications dans quelques années à toutes sortes de niveaux différents.
Bien, au plaisir de vous entendre ou de vous voir ou de vous lire aussi parce que vous avez l'embarras du choix en matière de stage.
Oui, mais ça va me faire plaisir de toucher à ça.
Et bravo encore. Merci beaucoup, Bouchra.
Merci beaucoup.
Chantal Srivastava a recueilli les commentaires donc de Marc-André Sabourin, gagnant de la Bourse Fernand Séguin 2010, et de Bouchra Wattik, gagnante du prix de la relève. À noter que les textes qu'ils ont soumis sont en ligne sur le site de l'Association des communicateurs scientifiques à l'adresse suivante, www.acs.qc.ca.
Les amateurs de surf qui portent un maillot de bain noir et blanc devraient s'abstenir de pratiquer leur passe-temps favori dans les eaux salées du sud-est de la Floride un jour de nouvelle lune. C'est du moins la conclusion d'une étude de l'Université de la Floride portant sur les 231 attaques de requins survenues depuis 50 ans le long des côtes du comté de Volusia, considérée comme la capitale mondiale des attaques de requins. Une explication avancée par les chercheurs, les requins sont attirés par les poissons dont les cycles de reproduction et le déplacement le long des côtes sont influencés par les cycles lunaires. Par ailleurs, les requins sont attirés par les éclaboussures ou le battement des pieds dans l'eau. 60% des victimes étaient des surfeurs qui ont été mordus à la jambe, soit très tôt le matin ou en après-midi lorsque les vagues étaient fortes. Les requins aiment bien aussi les contrastes, selon les chercheurs, ce qui expliquerait que la majorité des victimes portaient des maillots de bain noirs et blancs ou jaunes et blancs. Une solution peut-être pour les surfeurs qui veulent pratiquer leur sport et conserver leurs mollets, changer de couleur de maillot de bain.
Savane ou forêt? Les opinions varient sur l'environnement dans lequel Ardipithecus ramidus évoluait il y a plus de 4 millions d'années. Lorsque Hardy a été présenté en 2009 dans la revue Science, l'équipe de Tim White suggérait que l'espèce vivait dans un environnement forestier et que les individus étaient à la fois bipèdes et arboricoles. Mais cette semaine, des scientifiques de 7 universités suggèrent, toujours dans la revue Science, que c'est dans un environnement mixte de savanes, d'herbes et d'arbres qu'Hardy se déplaçait. Le détail est important. Jusqu'à la découverte du fossile, on estimait que c'est l'apparition des savanes qui avait forcé nos lointains ancêtres à se lever et à marcher debout. Si Hardy, qui était aussi bipède, évoluait en forêt, la théorie de la savane se trouvait fragilisée. La publication de cette semaine replace la savane au cœur des recherches pour déterminer le rôle de l'environnement dans l'apparition de la bipédie.
Malgré tous leurs efforts, les experts ont bien du mal à freiner la progression d'un champignon responsable de la rouille du blé, baptisé UG99 parce qu'identifié pour la première fois en Ouganda en 1999. Réunis cette semaine en congrès en Russie, les scientifiques ont souligné qu'il est important de développer et de distribuer rapidement des variétés de blé résistantes aux nouvelles souches de ce champignon dont les spores sont aisément transportées par le vent. Ainsi, en une décennie, UG99 s'est répandu en Éthiopie, au Soudan, au Yémen, en Iran, détruisant même jusqu'à 80% des récoltes au Kenya. Il progresse maintenant vers l'Est et menace de vastes champs de blé en Asie. Le problème, c'est que même si de nouvelles variétés de blé sont produites pour lutter contre UG99, le champignon coquin parvient à muter de telle sorte qu'il réussit à déjouer les gènes de résistance utilisés par les agronomes. Pour le moment, le Canada n'est pas encore menacé, mais cette histoire n'est pas sans rappeler les lourdes pertes enregistrées dans les années 50, alors que 40% des récoltes de blé de printemps ont été détruites par la rouille du blé.
Il y aura 100 ans, mardi, le 1er juin, donc, commençait l'ultime chapitre d'une aventure humaine fabuleuse, la conquête du pôle Sud. C'est en effet le 1er juin 1910 qu'un explorateur britannique, Robert Falcon Scott, appareillait de Londres à bord du Terra Nova. Deux mois plus tard, dans la nuit du 6 au 7 août 1910, un autre marin se lance dans la course. Le Norvégien Roald Amundsen quitte Christiana, l'actuel Oslo, à bord du Fram. Et ce n'est pas tout. Le 1er décembre de la même année, ce sera au tour du japonais Nobu Shirase de tenter sa chance en appareillant à bord du Kainan Maru. Pour raconter cette histoire vraiment extraordinaire, j'ai invité l'océanographe Paul Tréguer de l'Université de Bretagne occidentale, fondateur de l'Institut européen de la mer et auteur d'un livre minutieusement documenté sur cette aventure, « Trois marins pour un pôle » paru aux éditions Quai. Cette aventure, il faut le dire, elle commence bien avant 1910. Elle commence au début du 19e siècle.
L'homme est lancé à cette époque dans la découverte de la planète Terre. Et il imagine toujours que le Grand Sud, certains imaginent même que l'océan Sud est totalement libre de glace. Alors Cook, qui va faire le tour de ce continent glacé, il ne va pas finalement décider de s'aventurer, trop de risques pour son navire. Et il écrira, c'est d'ailleurs un petit peu dans la préface, qu'il laisse à d'autres l'honneur de cette découverte.
Je n'irai pas moi-même, c'était en quelle année on est...
Alors c'était dans les années donc 1800. Et calme.
Donc on voit le pôle Sud, ce continent, enfin ce bloc de glace, mais on va chercher quand même à y aller, à le conquérir au 19e siècle.
Oui, parce que on se rappelle que c'est aussi l'ère des grandes navigations. On va se ravitailler dans les colonies, en quelque sorte, notamment britanniques, mais aussi français, hollandais, etc. Et on va donc utiliser des grands voiliers pour cela. Hein. Rappelez-vous l'histoire du Cap Horn, le franchissement au sud de l'Australie, entre Hobart et l'Australie. Donc c'est toute cette époque-là. Et on veut donc effectivement augmenter les voies de navigation, les différentes routes, dans l'espoir de gagner du temps par rapport à ses concurrents.
Et c'est ça, et on veut aussi conquérir des territoires, des continents. On veut planter son pavillon, il y a ça aussi quand même.
On veut planter son pavillon, bien sûr, parce que un territoire ainsi, entre guillemets, conquis, ou en tout cas potentiellement conquis, c'est l'amorce de ressources exploitables après, ressources économiques, notamment dans le cas du grand continent sud, on soupçonne des ressources minières.
Alors, on va essayer d'aller au pôle sud au 19e siècle ?
On n'y arrivera pas. Disons qu'on essaye d'y aller. Il y en a plusieurs. On a déjà cité Cook. Il y a aussi Dumont d'Urville, par exemple, qui recherche à aller au pôle sud magnétique. Mais en réalité, et il ne le savait pas. Il n'avait aucune chance à l'époque, puisque le pôle sud magnétique 200 ans était en pleine terre, en plein continent. Il n'y avait aucune chance. De notre jour, ce serait plus facile parce qu'il se trouve actuellement à peu près dans la mer d'Urville, d'ailleurs, en hommage à cet explorateur.
Et pourquoi on est capable seulement au début du XXe siècle de se lancer dans ces expéditions-là?
Eh bien, franchement, d'abord, il faut avoir de l'argent à consacrer à des expéditions de ce type. Et l'argent vient assez naturellement, on peut dire, des sociétés publiques ou semi-publiques, sociétés géographiques royales ou autres. Et puis, il y a aussi des sponsors privés qui peuvent alimenter de façon conséquente parce que, on imagine, partir pour des terres si lointaines, il faut un bon navire, il faut beaucoup de gens. Il faut donc les payer. Il y a des vivres à amasser pour plusieurs mois, voire des années. Donc, ce sont des expéditions qui coûtent cher.
Et on va être prêt donc au XXe
siècle.
Voilà,
on sera prêt au XXe siècle. D'autant que, bon, la récession économique est passée. On est véritablement en plein boom de l'industrie. Toutes les conditions sont favorables, y compris à la tête des gens pour y aller.
On a trois marins donc qui vont se bagarrer pour arriver le premier au pôle sud. D'abord, pourquoi ces trois explorateurs-là, donc le Britannique, on le rappelle, Scott, le Norvégien Roald Amundsen et le Japonais Nobu Shirase. Pourquoi ces trois-là à ce moment-là?
Donc les conditions sont totalement réunies. Et aussi dans la tête des gens, je crois que c'est important dans le grand public, ils sont prêts à soutenir ces aventures un peu folles en l'occurrence. Pourquoi? Parce que l'homme rêve de devenir le maître de sa planète.
Alors on se dit, le Britannique c'est naturel, les Britanniques ont toujours été sur la mer, c'est naturel de retrouver donc Scott dans une expédition comme ça, mais le Norvégien qui vient d'un tout petit pays, de rien, la Norvège à l'époque c'est pas un gros pays, qui s'appelle donc Amundsen, le Norvégien, pourquoi lui?
Oui, mais finalement il est très proche du pôle Nord.
Ouais, c'est ça.
Et donc c'est son rêve en fait, puisque l'objectif réel d'Amundsen c'est d'aller au pôle Nord. Alors malheureusement, enfin, pour lui, ça a déjà été fait ou c'est réputé être fait, mais il persiste et il monte en fait une expédition réellement. Il a un financement, y compris de la famille royale, pour aller au pôle Nord quand il va quitter son port en quelque sorte. Eh bien, il va partir officiellement pour le pôle Nord par le sud, c'est-à-dire pour partir du détroit de Bering, ce qui n'avait pas été fait, donc côté novateur dans l'expédition. Mais, une fois arrivé à Madère, il révèle à son équipage et à l'ensemble de ses hommes son objectif. Petite surprise, voilà. Mon but, les gars, n'est pas d'aller au nord, mais au sud. Est-ce que vous venez avec moi? Petite hésitation.
Quel drôle de choix.
Certains d'entre eux, parce qu'ils devinent que c'est plus long.
Qu'on va dans une contrée inexplorée.
Inconnue totale. Mais finalement, tous décident de le suivre. Et alors, bien sûr, ceci étant fait, l'accord de ces hommes étant acquis, Amundsen envoie un télégramme à Scott, qui est déjà parti, on y reviendra. Et Scott va recevoir ce télégramme à Melbourne, mais c'est une autre histoire qu'on racontera tout à l'heure.
D'accord. Et puis, il y a donc le Japonais. Pourquoi lui et pourquoi un Japonais? Parce qu'à l'époque, le Japon, pendant des siècles, a été enfermé sur lui-même. On ne pouvait même pas sortir du Japon quand on était Japonais.
C'est une bonne question. Pourquoi un Japonais? Surtout que ses parents rêvaient de faire de lui un moine bouddhiste. Il a donc fait cette école au départ. Et sans doute, c'est moi qui l'imagine parce que je n'ai pas eu réellement l'explication, mais je pense qu'elle est assez vraisemblable. Pour fuir en quelque sorte ce sort, il s'est engagé dans la marine impériale. Et là, il a été confronté à la volonté d'expédition, d'expansion du Japon déjà.
On est à la fin du 19e
siècle. Et donc, les Japonais, la marine impériale, va monter une expédition pour aller conquérir des îles qui sont disputées avec la Russie à cette époque-là. Donc, il en fait partie. Et il va hiverner avec la marine. Et sur 12 hommes qui vont hiverner avec lui, 6 mourront. On pourrait se dire, ça y est, il est totalement découragé. Au contraire, il s'est affronté au grand froid. Il connaît les techniques de survie. Il se dit, je peux moi aussi monter mon expédition au pôle Nord.
Il cherche à aller au pôle Nord, mais c'est pas là qu'il y a.
Parce que, tout en préparant son expédition, il apprend que Cook et Perry sont censés avoir atteint le pôle Nord. Donc, il va monter une expédition pour le pôle Sud. Alors là, le problème, c'est de trouver un financement pour aller au pôle Sud. Peut-être aurait-il pu trouver une aide de son gouvernement pour le Nord. Mais le pôle Sud, vous imaginez, qu'est-ce qu'un Japonais irait faire au pôle Sud?
Bonne question, effectivement.
Alors, il a la chance d'avoir comme supporter l'ancien Premier ministre du Japon, qui avait, en quelque sorte, participé ô combien activement à l'ère des Lumières, et qui va, de sa propre poche, mais aussi vu son réseau, convaincre notamment un groupe de presse de contribuer à cette expédition, en tout cas de lancer des appels à sponsors, comme on dirait aujourd'hui, à financement.
C'est très moderne.
Voilà, c'est très moderne et c'est une histoire moderne, quoi, dans la diaspora japonaise qui est dispersée sur tout le Pacifique. Et ça marche. Ça marche, enthousiasme populaire. Quand assez d'argent est amassé pour acheter un navire, un grand meeting est organisé à Tokyo. Il y a tant de monde que les portes sont closes par les mesures de sécurité. Les gens vont entrer par la fenêtre.
Oh, c'est incroyable.
Donc, enthousiasme populaire. Et il va partir sous les hurrahs de la foule, de la foule totalement en émoi.
Les trois, là, donc, le Norvégien Amundsen, le Britannique Scott et le Japonais Shiraz partent à peu près en même temps. Mm-hmm. On est en 1910, il y a 100 ans assez précisément. Est-ce que chacun sait que l'autre est embarqué dans l'aventure? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils savent qu'il y a une compétition?
Oui, c'est une époque moderne et la presse fait bien son travail à cette époque-là. Donc Amundsen savait déjà que Scott était parti quand il avait quitté Oslo. Scott est le premier à partir le 1er juin de Londres, en fait.
1er juin 1910, non ?
1910, absolument. Oui, et bien sûr, la presse japonaise a rapporté les départs des explorateurs, donc Shiraze sait parfaitement où vont ses compétiteurs.
Plusieurs mois de navigation, car on navigue à voile, seront nécessaires à nos marins explorateurs pour arriver près du continent antarctique, dans la mer de Ross. Ils vont s'y installer à partir de janvier-février 1911, se préparer à y hiverner, l'hiver commence là-bas en mars, et se lancer dans la partie continentale de leur expédition, au début de l'été antarctique, vers octobre 1911. On est alors, comme disent les sportifs, dans le dernier droit. Mais encore assez loin du but, parce que entre le camp de base dans la mer de Ross et le pôle sud, il y a, Paul Treyer, une bonne distance.
1200 à 1300 kilomètres.
Qu'on va faire comment? Qu'ils vont faire comment?
Eh bien, les choix sont différents. Alors, pour résumer, Amundsen va se lancer avec des chiens qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise parfaitement. Petit épisode, quand le Fram, le navire d'Amundsen, et le Terra Nova, le navire de Scott, vont se rencontrer. Bien sûr, il y a échange d'équipage, ça se fait. Amundsen va venir à bord du Terra Nova et les Britanniques n'en reviennent pas. Ils ont affaire à, bien sûr, un homme qui dirige ses chiens. Il va dire stop à ses chiens qui vont rester immobiles pendant 2 heures et 2 heures qu'Amundsen sera à bord. On sait que l'aptitude habituelle des chiens de traîneau à se disputer entre eux, remarquable. Donc, chien pour Amundsen. Pour Scott, c'est une histoire qui est beaucoup plus fascinante. Scott est un novateur. Quand il était dans la marine...
C'est le Britannique.
C'est
oui.
Le Britannique, voilà. Mm-hmm. Donc, il était déjà dans les torpilles, dans la volonté de technologie. Et il va inaugurer le genre, en quelque sorte, en Antarctique, en amenant des traîneaux motorisés qu'il a essayé auparavant avec Charcot, qui est un explorateur antarctique français, au col du Lautaret. Donc, en 1908, donc il va être, en quelque sorte, rodé. Il va roder ses machines. Donc, il aura, d'une part, des traîneaux motorisés, des poneys, parce qu'il a été précédé par Shackleton dans cette expédition qui a failli arriver au pôle sud.
1908, voilà, 1908, oui.
Et donc, il a failli aller jusqu'à 180 km du pôle sud, mais il a dû s'arrêter faute de vivre. Et il avait des poneys. Et ça a très bien marché avec lui. Et bien sûr, des chiens. Donc, en gros, ce qu'il lance, c'est une fusée à 3 étages. Premier étage de la fusée, tous les moyens de locomotion sont mis à disposition. Deuxième étage, quand les traîneaux motorisés tombent en panne, on a les poneys et les chiens. Puis on a les poneys, puis on a les chiens en principe. Il lui faudra un quatrième étage à sa fusée. Les chiens s'avéreront déficients, ce sont les hommes qui vont tirer les traîneaux.
Qui vont tirer les traîneaux et Scott, lui, donc, va...
Voilà. Alors, Shiraze.
Oui.
Shiraze, comme on l'a dit tout à l'heure, le japonais, son bateau, disons, va subir quelques dommages. Il va falloir le réparer en Australie, à Melbourne, c'est toute une histoire. Et puis, deuxième expédition, il revient sur place. Et là, il sait qu'il est déjà trop tard, parce que les autres sont déjà partis. Donc, il va se contenter d'un raid.
Il est déjà parti sur la glace.
Sur le pôle.
Sur le pôle.
Sur le pôle, vers le pôle sud, quoi. Donc, il sait qu'il a aucune chance. Par contre, il fait un raid extraordinaire, parce qu'il a la chance d'avoir à bord 2 Ainu, les populations de l'extrême nord du Japon, très maîtres des chiens. Et il va conduire ses chiens, enfin, avec les 2 Ainu, d'une façon telle que, finalement, leur vitesse sera supérieure à celle d'Amundsen.
Donc, il aurait presque pu gagner.
Il aurait pu gagner.
Oui, c'est ça. Alors donc, ça se passe, ce voyage, chien, traîneau, motorisé, etc. Les trois sont en train de mettre le cap sur le pôle sud. Ça va bien se passer pour ces trois-là, pour se rendre?
Alors, tout d'abord, on ne sait pas que Amundsen a une première tentative qui faillit tourner au désastre. Il est parti trop tôt, l'obsession de vouloir gagner. Et il revient, alors il est parti avec 8 hommes, il revient en fait simplement avec, disons, l'ensemble des hommes qui comptaient son leadership. Donc il va falloir repartir. Alors il part encore relativement tôt et il va, sa connaissance du terrain, dans un glacier, une voie qui est totalement inconnue pour lui. Alors que Scott suivait les traces de Shackleton, Amundsen, lui, avait une voie totalement
différente, oui.
Et donc, il va réussir et il va faire d'un seul coup, effectivement, ce trajet.
Combien de jours pour faire les 1200
km? Un peu moins de 60 jours, 57 jours.
Oui. Voilà. Quelle expédition.
Quelle expédition.
Et donc, il arrive le premier, le 14 décembre 1911.
Voilà.
Et il est sûr d'être au pôle sud.
Il est sûr et il va le vérifier puisqu'il va donc faire son cercle magique, on peut dire, autour. Effectivement, on le sait maintenant qu'il y est arrivé parce qu'il a laissé une tente avec ses instruments et un message pour le suivant, adressé au capitaine Scott en lui disant « Capitaine Scott, en cas de malheur pour moi, veuillez transmettre s'il vous plaît au roi de Norvège le message suivant ». Scott le prendra très mal.
Oui.
Mais je pense que Scott aurait fait la même chose dans son cas.
C'était un petit peu de... On se narguait un peu. Et donc, ouais. Scott, lui, donc le Britannique, va arriver au pôle aussi.
À peu près un mois plus tard.
Un mois plus tard. Voilà. Donc, et probablement janvier 1912.
Ce qui est très curieux, c'est que voilà, quand il a reçu le message à Melbourne, le message d'Amundsen, lui annonçant qu'il partait en fait pour le pôle sud, il avait son sang-froid tout britannique. Il avait écrit à son épouse, Kathleen, je connais la compétence d'Amundsen et je pense qu'il a toutes les chances d'arriver avant nous. Mais que cela n'importe, nous aurons fait notre travail, nous l'aurons bien fait.
Ouais. Alors donc, Scott arrive presque un mois après, donc c'est le deuxième au fond à avoir atteint le pôle sud et lui, son histoire va mal tourner.
Voilà, le moral à zéro quand il découvre la tente et les traces des chiens, bien sûr, bien avant. S'ajoute ensuite le fait qu'ils sont plus tard dans la saison. Ils vont connaître des conditions météo plus difficiles. Et de ce fait, eh bien, sans doute aussi le défaut de vivre se rajoutant, un de ces hommes va mourir tout en haut du glacier, un second en bas, et finalement les trois qui restent vont mourir à 18 km de leur dépôt d'une tonne de vivres en raison du blizzard.
Et ça se passe dans des conditions assez tragiques. Et jusqu'à la fin, ils vont écrire des messages, ils vont raconter au fond...
C'est ce qui est remarquable dans le cas de Scott. Il va adresser un message personnalisé à toutes les personnes qui ont soutenu son expédition.
Jusqu'à la toute fin ?
La toute fin, on le pense, puisque en tout cas jusqu'au moment où il s'avérera incapable d'écrire.
C'est incroyable. Le Japonais, lui, donc, va presque aller au pôle sud, mais il n'ira pas.
Il n'ira pas, puisqu'il a conscience, de toute façon, la partie est perdue pour lui.
Alors, c'est un voyage d'exploration, de découverte, bien sûr, mais c'est quand même aussi un voyage de science. Ce sont des expéditions de science, quand même.
Tout à fait. Et là, on peut dire le gagnant, c'est Scott. Parce que,
donc le Britannique, oui.
Absolument. Parce que, incontestablement, d'abord, sur le trajet entre l'Europe et la mer de Ross, il avait à bord des biologistes marins qui ont fait de nombreux prélèvements au filet. Le plancton, les animaux, les oiseaux. Et donc, en fait, on a une description de l'écosystème antarctique. C'est la première. C'est tout à fait extraordinaire.
Et pour vous, comme océanographe, c'est une bonne description.
On en a profité. Je suis spécialiste des algues microscopiques. Il décrit des algues qui sont de grande dimension à l'époque. Quoi. Et on les retrouve. Quoi. C'est tout à fait extraordinaire.
Donc, au point de vue scientifique, Scott fait du bon travail.
Voilà. On peut donner un exemple, si on a le temps, peut-être là-dessus. C'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment une opération folle. Un de ces hommes, de ces biologistes, savait qu'il y avait une colonie de manchots empereurs à une certaine distance de leur base. Et que les manchots empereurs, on le sait depuis le film de Luc Jacquet, La Marge de l'Empereur, eh bien, l'incubation se fait en hiver austral. Il faut donc aller chercher des œufs en hiver austral. Totalement fou. À trois, ils partent. Ils ont quelques enduits, on s'en doute. Quoi. Ils vont mettre plusieurs semaines à faire cette expédition. Ils vont ramener leurs œufs. Tout cela pour qu'un professeur d'Édimbourg, finalement, analysant ses œufs ensuite, dise, eh bien, écoutez, l'hypothèse de Wilson, qui était dans la théorie de l'évolution, une continuité entre les reptiles et les manchots empereurs, ça n'est pas fondé.
C'est quand même de la belle science.
Extraordinaire.
Fascinant. Donc, des expéditions qui ont vraiment valu la peine. Bien sûr, sur le plan humain, sur le plan de l'exploration et aussi, d'une certaine façon, sur le plan scientifique.
Tout à fait, puisque en dehors donc, de ce qui a été fait par l'équipe de Scott, on peut mettre aussi au crédit d'Amundsen cette fois, l'exploration grâce aux Fram par l'équipage, dont deux étaient entraînés aux techniques océanographiques modernes. À l'époque, les Norvégiens étaient parmi les meilleurs en océanographie physique. Ils ont la première coupe de l'Atlantique Sud, et ça nous sert encore de référence.
Alors, je suis toujours avec Paul Tréguer, océanographe attaché à l'Université de Brest en France, auteur d'un livre qui s'appelle « Trois marins pour un pôle » qui raconte la conquête, il y a 100 ans très précisément, du pôle Sud. Mais on va parler du pôle Sud aujourd'hui, puis on va parler de vous un petit peu, Paul Tréguer, parce que le pôle Sud, l'Antarctique en tout cas, vous connaissez bien. Vous êtes allé quelques fois.
Tout à fait, puisque j'ai dû faire cette expédition dans ce milieu tout à fait fascinant. On peut dire que, bien sûr, il y a un côté scientifique, mais assez honnêtement, je peux être franc avec vous, avec vos auditeurs, il y a aussi un côté, je dirais, affectif.
Oui, bien sûr, oui. Alors, vous, dans votre livre, vous parlez d'une expédition en Antarctique, d'une de vos expéditions en 1990. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, celle-ci?
Alors, c'est une expédition organisée par la National Science Foundation aux USA. Et donc, je travaillais avec des collègues. Nous étions sur le problème du puits de gaz carbonique dans l'océan austral, en particulier sur le rôle joué par les algues microscopiques, celles que j'ai mentionnées tout à l'heure pour l'expédition Scott, le rôle qu'elles jouent comme pompage de CO2.
Donc, une expédition scientifique au sens vraiment contemporain, moderne du mot.
Avec
Et vous êtes allé au pôle Sud à ce mocement-là?
Non, je suis resté à McMurdo, mais je suis bien sûr allé visiter la cabane de Scott, qui est religieusement entretenue par les Néo-Zélandais.
Alors, elle est où, cette cabane de Scott?
À côté de McMurdo.
Et donc, c'est l'endroit où il est resté, où c'était son camp de base?
Alors, il a fait deux expéditions en Antarctique, et c'est la première. Non, la deuxième expédition dont on vient de parler, c'était à quelques dizaines de miles, un peu plus loin.
Cette cabane de Scott, c'est vraiment quelque chose de très... qui doit être très touchant. C'est gros, c'est petit, ça ressemble à quoi?
C'est relativement petit. À l'intérieur, les vivres sont conservés, prêts à servir. Les instruments, les skis, les traîneaux sont là. Et très franchement, quand vous ouvrez la porte, vous attendez à ce que Scott ou Wilson ou Griffith Taylor vous souhaitent la bienvenue.
Donc, de nombreuses fois en Antarctique pour vos recherches en océanographie et notamment sur les algues. Il faut parler un peu de l'Antarctique. On s'en va vers la fin de cette entrevue, de l'Antarctique aujourd'hui, qui d'abord a un statut protégé depuis 1959. L'Antarctique est un continent à part.
Le traité de l'Antarctique, signé par de nombreuses nations, garantit qu'il n'y aura aucune utilisation des ressources naturelles, y compris minières, aucune utilisation militaire de l'Antarctique, et donc on ne peut être en Antarctique que pour des raisons scientifiques.
Et depuis 1959, ça tient?
Effectivement, le traité est observé. Ce n'est pas toujours le cas dans le monde, on le sait, mais là, c'est observé.
C'est observé parce que effectivement, on s'entend pour dire que c'est quelque chose de particulier ou parce que c'est inaccessible, parce qu'il y a trop de glace et parce qu'il n'y a pas assez de pétrole?
Disons qu'il y a de bonnes raisons, y compris dans le contexte du changement climatique. Bon, d'une part, la calotte glaciaire de l'Antarctique est absolument extraordinaire pour la reconstitution des climats. Donc Vostok, Concordia, le Domsey, etc. On en extrait des carottes, et avec ces carottes, on est capable de vous dire...
On a fait des carottes fabuleuses. Hein.
Absolument. Bon, donc, qui permet de reconstituer 800 000 ans d'histoire de la Terre, si on peut dire, d'une part. L'océan, qui est ma raison d'être, si je peux dire, Antarctique, qui est donc, je l'ai suggéré tout à l'heure, un puits pour le dioxyde de carbone, un des gaz importants dans l'effet de serre, et l'océan austral joue ce rôle, avec une certaine variabilité qu'il faut comprendre. Donc, en somme, l'Antarctique, comme l'Arctique d'ailleurs, c'est une des zones essentielles à comprendre dans le contexte du changement climatique. Et là, nous avons des signaux de la variabilité, de la tendance au changement. Donc, c'est un lieu, on peut dire, essentiel pour les scientifiques. On peut dire d'ailleurs que ces deux lieux ont été largement honorés pendant l'année polaire internationale qui vient de se terminer.
Cet Antarctique, donc, on peut dire que c'est un continent de science pour la science?
On peut le dire ça, tout à fait. C'est une expression littérale, mais qui convient parfaitement.
Alors, vous dites, dans le contexte du changement climatique, notamment, c'est extrêmement important de pouvoir étudier et l'Antarctique et l'Arctique. Ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression que les deux ne réagissent pas de la même façon. On a l'impression que dans l'Arctique, donc le nord du Canada, etc., on a un réchauffement très marqué. Et que dans le sud, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'effectivement, on voit des différences de comportement des deux pôles?
Alors, la bonne raison pour cela, c'est que pour nous, l'Arctique, c'est une espèce de Méditerranée, c'est-à-dire une mer entourée de terre. Et donc, ce système est très réactif. Alors que l'Antarctique, c'est d'abord un continent avec un océan autour. Et pour faire la communication entre les deux océans, l'océan Arctique et l'océan Antarctique, il faut plusieurs centaines d'années. Par conséquent, le signal que l'on observe dans l'Arctique se verra sans doute dans l'Antarctique beaucoup, beaucoup plus tard. Bien sûr, la calotte glaciaire de l'Antarctique son cheminement est, si je peux dire, dans le temps comparable à celui du Groenland. Vous savez que la calotte glaciaire au Groenland est en train de subir quelques variations. Côté Antarctique, ces variations semblent se limiter dans le lieu que nous avons coutume d'appeler la péninsule antarctique au-dessus du Cap Horn.
Oui.
Le reste ne semble pas affecté. Nous verrons, et c'est pour ça qu'il faut des observatoires en nombre, multidisciplinaires et multinationaux, pour être sûr que nous soyons sûrs de ne pas rater réellement l'ensemble des phénomènes.
Alors, donc, ça, c'est l'intérêt donc, de ce grand continent qu'on appelle l'Antarctique, qui a été conquis il y a une centaine d'années hein, par ces explorateurs extraordinaires que vous admirez beaucoup, que vous aimez beaucoup. Paul Tréguer, vous citez en conclusion la phrase d'un de vos collègues, Jean-Louis Etienne, qui dit « L'Antarctique n'est pas un continent pour les hommes, c'est un continent pour la Terre. »
Oui.
Est-ce que c'est aussi votre conclusion ?
C'est vrai, mais j'ai peut-être tendance à moduler un petit peu
oui.
le propos en disant que l'Antarctique et son océan, en quelque sorte, sont des lieux essentiels pour l'avenir de la planète Terre et de l'humanité.
Eh bien, Paul Tréguer, je vous remercie beaucoup d'être venu en studio. Je rappelle donc que vous êtes océanographe attaché à l'Université de Brest en France et que vous avez publié un très beau livre sur cette aventure de la conquête de l'Antarctique qui a 100 ans. Ça s'appelle donc « Trois marins pour un pôle ». C'était aux éditions Quai. Je vous remercie beaucoup, Paul Tréguer.
Merci à vous.
Depuis toujours, les animaux nous rendent de fiers services. On n'a qu'à penser au bœuf ou au cheval. Les animaux nous procurent aussi du plaisir, parlez-en propriétaires de chats ou de chiens qui vont parfois jusqu'à dire que leur animal de compagnie est devenu leur confident. Et si, justement, le chien, le chat et même le cheval pouvaient aider les humains à se sentir mieux ? Eh bien ça, c'est le pari de la zoothérapie, une discipline qui est de plus en plus pratiquée, qui fait l'objet d'un livre intitulé « La zoothérapie, nouvelles avancées » qui est publié sous la co-direction de Georges-Henri Arenstein, psychologue, et de Jean Lessard, éducateur canin comportementaliste aux éditions Options Santé. Chantal Srivastava les a invités tous les deux en studio pour qu'ils nous présentent cette discipline qu'ils pratiquent tous deux avec leurs chiens.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Premier défi, je pense, qu'on a quand on parle de zoothérapie, c'est peut-être d'expliquer en quoi ça consiste. Le fait d'avoir un animal n'est pas de la zoothérapie en soi. Il faut que ce soit plus complexe. Ça, il y a aussi le mot « thérapie » qui est fondamental. Monsieur Arenstein.
La zoothérapie, c'est les soins ou la thérapie destinée à un être humain ou plusieurs êtres humains, les clients ou les patients. Je dis un ou plusieurs parce que ça peut se travailler en individuel ou en groupe, avec l'assistance d'un animal. Et c'est ça l'originalité de la zoothérapie ou éventuellement de la thérapie assistée par l'animal.
Parce qu'il y a différentes façons de nommer, hein, assistée par l'animal, activité assistée par l'animal, zoothérapie. C'est une pratique qui est dite alternative. Pourquoi c'est encore alternatif alors qu'on parle de ça depuis si longtemps, Jean Lessard?
En fait, c'est la réticence à certains milieux d'incorporer cette pratique dans leurs interventions. Il y a aussi l'idée derrière, à côté de zoothérapie, on omet d'autres façons d'en parler, la zooanimation, les activités assistées par l'animal. La zooanimation, ce n'est pas de la thérapie, d'accord? C'est, je visite une institution avec un chien, puis on le caresse, on s'amuse avec. C'est de la zooanimation. Il n'y a pas des objectifs thérapeutiques à suivre, à atteindre, avec un document pour tenir le suivi du client qui est en thérapie, OK? On parle donc de différences énormes dans les activités zooanimation, zoothérapie. Alors, la zooanimation, souvent, ça va être fait par des bénévoles.
Donc, qui viennent avec leur chien,
Qui viennent avec leur chien. Alors, autant la zoo-animation avec des bénévoles offre des bienfaits géniaux à plusieurs personnes, autant elle peut peut-être nuire à la crédibilité de l'activité dans un cadre professionnel. Alors, c'est pourquoi il faut remettre les choses en perspective un peu, donner ses lettres de noblesse à chacune des pratiques et convaincre que la zoothérapie, c'est un travail professionnel et sérieux.
Zoothérapie effet psychologique, effet physique. Georges-Henri Arenstein, qu'est-ce qui a été démontré? Qu'est-ce qu'on sait? L'animal, ça fait du bien, c'est le principe de base, mais jusqu'à quel point est-ce que ça a été validé par la science?
Il y a un grand nombre de choses qui a déjà été démontré et qui a été validé. On cite, non pas une, mais plusieurs recherches qui ont été faites aux États-Unis, si ma mémoire est bonne, à Baltimore, mais dans d'autres villes des États-Unis aussi, où la présence, et seulement la présence d'un animal, apaise la respiration, diminue la tension artérielle élevée et autres bienfaits. Mais ça, c'est juste la présence.
Alors, la zooanimation, donc, à laquelle M. Lessard faisait référence.
C'est quand même un début, et c'est un début intéressant. Maintenant, l'intervention proprement dite, avec des jeux, avec des exercices, avec l'activation des fonctions cognitives du patient aussi, permet d'obtenir des résultats assez spectaculaires.
Comme par exemple, il y a plusieurs exemples dans ce livre, donc la zoothérapie, nouvelles avancées que vous avez co-dirigées. Monsieur Lessard, Monsieur Arachan,
des
exemples?
Oui, comme des exemples, on va parler au niveau cognitif, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des perceptions, perception d'autrui et de soi, respect d'autrui, estime de soi, confiance en soi. On sait, moi je travaille avec des enfants déficients dans une école primaire, et les premiers objectifs ou les premiers niveaux d'objectifs sont ça, l'estime de soi, la confiance en soi, pour permettre une évolution un petit peu plus rapide de l'enfant qui accuse un retard académique. Alors, ne serait-ce que ça, c'est énorme. Maintenant, il n'y a pas seulement qu'au niveau cognitif, il y a au niveau psychomoteur pour toutes sortes de clientèles. On peut stimuler toutes sortes de choses sur le plan psychomoteur qui a un effet bénéfique, on le sait aussi, sur le cognitif. Alors, tout ça est mis ensemble, finalement.
Vous faisiez référence donc au travail que vous faites dans les écoles. C'est le projet Maggie, c'est ça?
Oui,
donc,
grandir avec Maggie.
Pouvez-vous nous parler un peu plus, nous donner un peu plus de détails sur ce que vous faites avec un chien, dans ce cas-ci, en classe?
Oui, écoutez, c'est une professeure de l'école primaire, une orthopédagogue, Diane Turcot, qui m'a invité à rencontrer son chien. Simplement, une consultation normale, là, comme j'en fais habituellement. Rencontrer son chien, l'évaluer, puis faire quelques exercices pour qu'il aille bien, puis que ça aille bien dans la relation. C'est après qu'elle m'a dit, savez-vous quoi, je veux l'amener à l'école. Et c'est plus tard qu'elle m'a dit, savez-vous quoi, je veux que vous dirigiez le programme de zoothérapie, grandir avec Maggie à l'école. Alors, c'est fascinant parce qu'elle est avec des enfants déficients qui souffrent de différentes carences, de déficience moyenne légère, de violence à la maison, que ce soit verbale ou physique. Alors, ces enfants-là, évidemment, je disais, on parlait d'estime de soi, de confiance en soi. Le premier niveau d'éveil de conscience, ça a été quand j'ai montré aux enfants qu'on pouvait enseigner plein de choses à un chien sans jamais le punir. Vous imaginez que ça, ce niveau de conscience-là que les enfants ont pris. Waouh! On peut évoluer dans le plaisir, dans le jeu, dans la joie. Alors, c'est eux qui ont tout enseigné aux chiens. Ça fait 5 ans qu'on fait le projet. Et puis, on fait des espèces de petites présentations au laboratoire chaque année. C'est magnifique de voir aller ces enfants-là, à quel point ils ont évolué, je dirais, un peu plus rapidement grâce à la présence de Maggie.
Et vous, M. Arenstein, donc, dans votre pratique de psychologue, vous appelez également en renfort vos chiens, vos chiennes?
Oui, alors, deux aspects. Dans ma pratique de psychologue, les chiens sont présents dans le bureau et parfois même dans la salle d'entrevue. Les premières minutes se passent habituellement avec une interaction non voulue, mais provoquée par les... Quand je dis non voulue, c'est non voulue par moi, mais provoquée par les chiens qui manifestent leur curiosité, leur odorat et tout ça. Ce qui facilite d'entrée de jeu les premiers contacts de l'entrevue, les premières paroles de l'entrevue. Ça, c'est ma pratique de psychologue en pratique privée. Les contrats de zoothérapie que j'ai, c'est plus particulièrement dans les CHSLD. J'ai travaillé dans un CHSLD pendant...
centre de soins de longue durée.
Centre donc, hospitalier de soins de longue durée. Puis quand j'en parlais de psychomotricité, j'ai automatiquement pensé... vous savez, dans des CHSLD, la psychomotricité est vraiment réduite à sa plus simple expression. Les résidents sont soit cloués à leur lit, soit cloués à un fauteuil roulant. Et les plus valides d'entre eux sont capables de marcher. Avec... encore un certain équilibre s'il est intact, s'il est maintenu. Mais la marche n'est pas une marche très énergique, c'est une marche complètement amortie par l'affaissement du tonus musculaire. La marche avec un chien en laisse, dans les corridors, redonne une nouvelle vigueur à ces résidents-là, permet un développement de la motricité avec la distribution de friandises, le lancer d'une balle, et j'en passe. Et j'ajoute que c'est à la fois bénéfique pour les visiteurs qui viennent saluer leur papy et leur mamie, et même pour le personnel qui travaille sur l'étage.
Et ça, on a pu mesurer, donc, les bienfaits auxquels vous faites référence.
Ça a été mesuré beaucoup aux États-Unis, un petit peu au Québec avec l'hôpital Rivière-des-Prairies. Et tout récemment, j'ai rencontré une collègue enseignante à l'UQAM qui m'a promis de prêter main forte à une recherche. Moi-même, je suis pas un chercheur. Là, je me définis vraiment comme un praticien et non un chercheur. Mais quand on fait de la recherche dans ce domaine-là, il faut maîtriser les protocoles de recherche, la gestion des variables, les statistiques. Tout ça, c'est pas mon fort. Je pense que c'est pas le fort de Jean Lessard.
Jean Lessard. Non plus,
effectivement.
Mais ça s'en vient,
par contre. C'est important. C'est peut-être ce qui va vraiment donner ces lettres de noblesse à la
zoothérapie. C'est ce qui nous manque, des recherches sérieuses. Maintenant, comme Georges-Henri le disait, ne serait-ce que cet aspect, contrôler les variables dans la recherche. C'est très difficile pour la zoothérapie à cause de la quantité de clientèle, de la quantité d'animaux utilisés. Donc, d'espèces différentes.
On a parlé du chien, mais il y a le lapin, le furet.
Absolument, le cheval.
Ouais,
et bon. Donc, les recherches vont être, j'imagine, assez partielles ou ciblées. Il y a un projet très intéressant qui se produit en ce moment en Alberta, qui s'appelle le projet CHIMO, C-H-I-M-O, du nom du chien du responsable de ces recherches. Et il va tenter, lui, de vraiment faire une recherche avec un protocole sérieux pour tenter de tirer des conclusions face à l'activité zoothérapeutique. Oui.
Alors, dans ce livre, justement, La zoothérapie, nouvelles avancées, que vous avez co-dirigé, Georges-Henri Einstein, Jean Lessard, on fait référence à un cas classique de zoothérapie dont j'aimerais qu'on parle un peu plus. Les enfants en oncologie, donc les enfants atteints de cancer. Et là, à Québec, on a un projet, entre autres, qui est là depuis un très long moment et qui donne des résultats. On n'est peut-être pas mesuré scientifiquement, mais en tout cas, tous les gens qui sont sur place, là, constatent que la présence des animaux, de ces petits chiens, des petits chiens blancs hein, qu'on amène aux enfants, a vraiment des effets bénéfiques pour leur santé.
Les cotons.
Les cotons de Tuléal, une petite boule blanche.
Les cotons de Tuléal, le projet a pris une telle expansion et a connu un tel succès qu'ils ont maintenant là-bas leur propre élevage. Il faut rendre hommage à l'initiatrice de ce projet-là, qui était une infirmière à l'interne, qui s'appelle Marie Tremblay.
À quelle institution, à quel hôpital?
Le CHUC.
Au CHUC, le Centre hospitalier universitaire
de Québec. D'accord. Et je crois que ça doit durer, ça s'étale maintenant sur une période d'environ 10 ans, si je ne me trompe pas, peut-être 12. Le nouveau directeur, ben je dis nouveau, depuis quelques années déjà, s'appelle Pierre Verret, infirmier. Et c'est lui qui dirige cette opération maintenant, qui porte pour titre « La magie d'un rêve », qui aboutit à la rédaction de ce chapitre.
Alors, ce qui se passe concrètement, c'est que pour la journée, l'enfant est en compagnie, et sa famille sont en compagnie d'un chien lorsqu'on lui administre des traitements, entre autres, qui parfois peuvent être douloureux, désagréables, et on note des résultats.
Le chien est présent toute la journée. Les traitements ont lieu une ou plusieurs fois par jour. Le chien est en compagnie de l'enfant. Et figurez-vous qu'une curiosité, dans le chapitre, l'auteur a utilisé l'expression « chien thérapeute ».
Ce qui peut en faire tiquer certains.
Oui, ben, dont Georges-Henri et moi.
dont nous en partant. Alors, j'ai vérifié avec Pierre Verret le sens de cette appellation-là, parce que notre philosophie est que le chien n'est pas le thérapeute, mais l'assistant du thérapeute. Le chien ne peut pas tout faire tout seul. Il n'est même pas co-thérapeute, selon nous.
Il est un catalyseur, peut-être.
Un catalyseur, aussi. Un assistant. Je pense que c'est le meilleur mot, un assistant. Mais Pierre m'a expliqué, patiemment, que dans leur cas, le chien est vraiment entraîné à remplacer l'intervenant, à remplacer le thérapeute pendant plusieurs heures par jour. Exemple, quand l'enfant se réveille, le chien s'approche, le chien apporte un jouet à l'enfant, le chien joue avec l'enfant. Quand c'est le moment des traitements, le chien se blottit contre l'enfant et ne bouge pas. Il travaille effectivement comme un thérapeute pourrait le faire, mais c'est un chien et non un humain.
Mais c'est pas tous les chiens qui peuvent faire ça.
Pas tous les chiens, non. Intéressant, dans le cas d'un contexte hospitalier comme ça, les bénéfices sont mesurés. Hein. C'est les signes vitaux qu'on mesure de l'enfant, avec ou sans chien, la différence que ça fait. Alors, c'est pour ça qu'avec ces données-là, ça devient peut-être plus facile de convaincre le personnel administratif d'un hôpital.
Sauf qu'il y a plusieurs barrières ou obstacles, entre autres la salubrité, les risques de maladie,
Oui, et ainsi en de fait, tout est contrôlable. Il suffit vraiment de convaincre les gens parce que c'est souvent des idées, hein, des fausses croyances, tout ça. Alors, il suffit de convaincre les gens qu'un animal qui est bien traité, en santé, propre, etc., n'est pas un vecteur de maladie plus que nous-mêmes.
Alors, en résumé, la zoothérapie, c'est pour qui et c'est par qui? Quel type d'animal pour quel type de clientèle? Est-ce qu'il y a un portrait type de gens qui sont plus réceptifs? Quelqu'un qui n'aime pas les animaux, par exemple. Est-ce qu'il va bénéficier autant des bienfaits?
Bon, on pourrait effectivement travailler le fait qu'il n'aime pas les animaux. Mais autrement, c'est pour...
Mais peut-être qu'il est très bien comme ça.
Peut-être qu'il est très bien comme ça aussi. On n'a peut-être rien à guérir là. Mais je vous dirais, c'est pour tout le monde. Dans le sens où il y a une quantité de clientèle infinie qui peuvent bénéficier de la zoothérapie. Par qui, Georges-Henri?
Mais par qui? Difficile d'y travailler. Encore une fois, ce n'est pas mon combat à moi, mais on sait qu'il y a plein de gens qui s'intitulent zoothérapeutes parce qu'ils s'imaginent être des grands thérapeutes parce qu'ils déclenchent des réactions qu'on appelle gentiment « cute response ».
Cute response, oui, donc, mignonne.
Des réponses mignonnes.
Genre, oh le beau toutou,
oui, exactement. D'attendrissement devant l'animal, ce qui est sans aucun doute une bonne chose, mais qui n'est certainement pas de la thérapie en soi. Alors, je valorise beaucoup la recherche et j'ai beaucoup d'espoir que cette collègue enseignante, comme je le disais tantôt, va nous donner un fameux coup de main avec la méthodologie pour la recherche. Et quand je parle de ça, on est à la fin du mois de mai. Ça va commencer en septembre cette année.
Georges-Henri Arenstein, psychologue, Jean Lessard, éducateur canin, comportementaliste, je vous remercie infiniment tous les deux d'être venus nous parler de ce livre. Ça s'intitule « La zoothérapie, nouvelles avancées », qui est lancé cette semaine donc aux éditions Options Santé. Merci beaucoup.
Merci à vous, Chantal.
Merci.
Et c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe. Avec la technique, Michel Potvin, les journalistes, Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal de Srivastava et au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur Rachel Légère. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. La semaine prochaine, Chantal de Srivastava prend la relève à l'animation des Années-Lumière parce que moi, heureux homme, je serai en vacances. Mais les Années-Lumière, elles ne le seront pas. Elles ne sont d'ailleurs jamais en vacances, les Années-Lumière. Cet été, d'ailleurs, on va vous proposer, entre autres, une belle série de rencontres sur le thème de l'année, la biodiversité. Portez-vous bien, en vacances ou pas. Au revoir.